Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 7 février 2024. Grosso modo, ce matin, quand j'ai ouvert un petit peu les médias financiers, quand j'ai brosé sur Internet, quand j'ai surfé sur le web, eh bien, je me suis rendu compte que finalement, le marché était d'abord super calme. Quand on regarde les performances des indices hier, il n'y avait pas de raison non plus de se lever. Ça se passe surtout au niveau des sociétés avec les publications des résultats, mais les indices ne font plus vraiment grand-chose pour l'instant. On sent qu'on est là en train de se demander est-ce qu'on veut aller plus haut ? Puis si on va plus haut, pour quelles raisons on irait plus haut ? Puisqu'on continue à avoir quand même 2-3 signes assez évidents comme quoi les taux ne vont pas baisser de si tôt, et ça il faut quand même le digérer, même si a priori on l'a plutôt bien pris puisqu'on se concentre sur d'autres choses comme les résultats canonissimes de tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Et du reste, alors, il y a 2-3 mauvaises nouvelles aussi, mais l'un dans l'autre, j'ai un peu l'impression qu'on s'est séparé en plusieurs sections. Vous avez la section taux d'intérêt, on discute toujours beaucoup de ce que dit la Fed, vous avez la section intelligence artificielle qui fait toujours beaucoup de bruit, et vous avez la section earnings, résultats du trimestre, dont on parle plus ou moins en fonction de l'activité sur les titres concernés. Et puis après, il y a une quatrième section, la section bis, qui est la section crise de l'immobilier commercial. Mais ça, on n'aime pas trop en parler, mais de toute façon, on sait qu'elle est gérée. Et puisque Madame Yellen a encore dit hier soir que de toute façon, bien sûr que les autorités s'en occupaient, on surveille attentivement, et puis dans le pire des cas, on fera comme d'habitude, on signera des chèques. De toute façon, de l'autre côté, le gouvernement a un crédit illimité jusqu'en janvier 2025. Alors autant faire péter la caisse et puis venir sauver les banques qui se seraient éventuellement foutues dedans en prêtant de l'argent dans le secteur de l'immobilier commercial, encore une fois. Alors si on commence par le secteur taux, eh bien ce qu'il faudra retenir, c'est que hier soir, il y a M. Kashkari qui a parlé. Alors M. Kashkari, un des membres de la Fed, en ces derniers jours, il parle à peu près tous les jours. Il a un peu le même rythme que M. Bruno Le Maire au niveau des plateaux de télé, c'est-à-dire qu'il est à tout le temps sur toutes les chaînes pour dire « Oui, moi je pense que les taux d'intérêt, il n'y a pas urgence de les baisser. D'abord, il faut plus d'informations, il faut faire attention, l'inflation n'est pas encore vaincue. » Bref, il y a toute une série de petites phrases comme ça. Bon, monsieur Bruno Le Maire, lui, il est un peu concentré sur la même chose. Oui, les prix vont baisser, je vous l'assure, je sais, c'est moi qui ai décidé. C'est comme quand moi j'ai mis l'économie russe à genoux. Bref, monsieur Kashkari est donc là un petit peu partout pour nous dire que bah c'est pas encore gagné au niveau de la baisse des taux. Donc on va toujours dans ce scénario où mars, c'est de moins en moins probable, mais c'est plutôt possible, mais c'est même pas sûr. Par contre, on se dirige plutôt vers un truc autour, au niveau de juin, juillet, enfin loin, loin, à une époque où il fera chaud et on fera des barbecues. Donc du coup, Kashkari n'est pas trop enthousiasmant de ce côté-là. À côté, on a eu Madame Loretta Mester qui est venue également nous dire qu'elle, elle avait rien contre le fait de baisser les taux, mais il fallait plus d'indications économiques, plus d'indications comme quoi l'économie était résiliente. Je ne sais pas ce qu'il lui faut aujourd'hui, mais enfin bref, tout ça pour dire que les membres de la Fed continuent à vouloir laisser entendre qu'ils sont prêts à baisser les taux, mais ils aimeraient quand même un petit peu plus de garanties. Au chapitre des résultats trimestriels, on pourra citer en vrac Eli Lilly qui a publié de bons chiffres, une bonne guidance, et c'est plutôt optimiste. Le marché ne faisait rien derrière, le titre ne montait pas, ne bougeait pas, ni avant ni après le marché. Ce qu'il faut tenir, c'est que le titre est tellement monté ces derniers temps que de toute façon, on peut largement se dire qu'il n'y a pas de raison de s'exciter. Mais en tous les cas, tous les feux sont ouverts sur leurs médicaments contre l'obésité et sur le reste du business model de Eli Lilly. On notera aussi Ford qui a publié des chiffres, des bons chiffres avec une guidance positif, laissant supposer qu'ils allaient sortir un modèle qui va faire concurrence à la Tesla Model 2 qu'ils sont en train de préparer aussi. Résultat, eh bien, c'était plutôt enthousiasmant. Ils pensent que leur modèle sera mieux que celui de Tesla et ils profitent aussi du fait que Tesla est en train de se faire déglinguer dans tous les sens. Même si le titre remontait hier, on notera quand même que chez Tesla, il y a eu le premier downgrade de la part de Daiwa. Et ce qui est assez intéressant aussi là-dedans, c'est que le premier downgrade qui a eu lieu sur Tesla récemment, eh bien, c'est un type qui a dit « J'ai rien contre la boîte, mais j'aime pas le CEO ». Le CEO, il s'appelle Elon Musk. Donc, on n'a pas fini de rigoler sur ce sujet-là. Revenons donc justement à Ford, qui a donc fait plaisir au marché, pour une fois, et qui montait de 6% after close. On espère juste qu'ils vont développer un nouveau modèle, et puis ils vont pas nous faire un rebranding de la Ford Mustang pour faire une Ford Mustang électrique, ce qui est d'ailleurs un scandale. Toujours au niveau des résultats, eh bien, on a vu avant-hier que Palantir a cartonné, donc ça s'est confirmé durant la séance, plus 30%, et puis alors tout le monde s'en bat sur la thématique. On a même M. Dan Ives de chez Wedbush qui est venu nous dire que ça allait au ciel parce que c'était un diamant brut que personne n'avait rien compris. Donc du coup, carton sur pas long de tir. Et puis on a eu Snapchat. Alors Snapchat, comme d'habitude, c'est que du plaisir. Je vous disais hier qu'il fallait faire un straddle, un long call, long put, parce que de toute manière, ça allait bouger violemment dans un sens ou dans l'autre. Compte tenu des licenciements de la veille, eh bien, on aurait pu se dire, évidemment, ça fait que baisser. Évidemment, ça fait que baisser. Le titre a perdu 30%. Résultat pourri. Mais surtout, au-delà des résultats pourris, la guidance qu'il donne exprime une méfiance sur le business de la publicité, comme quoi c'est très, très difficile. Mais c'est pas de leur faute. Bon, ils ont pas dit que c'était de la faute à la guerre entre Israël et Hamas. Mais en tous les cas, ça se passe pas très bien et ils sont inquiets pour la suite de l'économie de la publicité. Sauf que de l'autre côté, quand vous voyez les commentaires qui ont été faits par Meta ou par Google, c'est pas du tout la même purée. Résultat, les analystes se disent, en fait, les mecs sont sur le même business, mais il y en a deux qui cartonnent et un qui cartonne pas, ce qui veut dire que le problème, c'était pas forcément le business, mais plutôt la société. Résultat, Snap se fait justement déglinguer. De moins en moins d'employés, un business model qui fonctionne pas, des craintes pour l'avenir, un titre qui perd 30%, ça sent pas super bon pour l'avenir de Snap, à moins qu'il se fasse racheter par quelqu'un, mais en même temps, qui aura envie de racheter un truc pareil. Pour ce qui est de l'immobilier commercial, donc pour l'instant, on va revenir brièvement sur le sujet, on va quand même pas oublier que l'un dans l'autre, c'est un problème, les montants peuvent quand même dépasser beaucoup, beaucoup de milliards, mais aujourd'hui, tant que c'est pas 1000 milliards, eh bien, ça va encore. C'est pas aussi violent que ce qui s'était passé sur la crise des subprimes à l'époque. Bien sûr, on est relativement confiant. Ce qui est assez impressionnant, c'est ce taux de confiance qu'affichent les autorités, puisqu'on a M. Powell qui a dit que la crise était gérable. Hier, on a Mme Yellen qui a dit qu'il n'y aurait pas de problème et puis qu'ils trouveraient des solutions. Donc, ce qui est assez sympa comme business, moi, si un jour je veux monter une société, je vais monter une banque et puis je vais essayer de faire des trucs un peu délirants dans tous les sens. Au pire, si je me plante, c'est le gouvernement qui prend. Et puis, si je me plante pas, c'est moi qui prends des bonus. Donc, c'est plutôt intéressant comme business, ce qui est en train de se passer en tous les cas aux États-Unis. Néanmoins, la New York Community Bank Corp, vous savez, cette banque qui avait racheté la Signature Bank après le bank run de l'année passée, qui a fait d'ailleurs un pic au mois d'août, tout le monde courait derrière. Eh bien, hier matin, elle a été downgradée par Moody's qui a passé sa dette sur junk, en gros obligation pourrie, en gros risque de faillite, si on peut le prendre comme ça. Enfin, c'est des raccourcis, mais en gros, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Le titre s'est encore fait déglinguer. Grosso modo, depuis les tops du mois d'août, le titre a perdu 74%, ça fera. Donc ça se passe très très bien, toujours dans ce secteur-là, dans les banques régionales. Ça continue à vraiment être hyper motivant. En tout cas, pour l'instant, on a la sécurité qui est offerte par la secrétaire du Trésor et par la Fed, mais le seul truc qui pourrait nous arriver de mauvais, c'est que finalement, les clients, ils ont les ras-le-bol et que eux se tirent de nouveau et nous fassent revivre un bank run comme on a vécu l'année dernière. Mais a priori, c'est parce qu'il est en train de se tramer, visiblement, puisque tout le monde a l'air plutôt serein. Et puis au pire, si ça devait faire de la contagion, ça donnera l'occasion à d'autres banques de racheter d'autres banques, comme l'UBS a fait avec le Crédit Suisse l'année dernière. UBS d'ailleurs qui a publié des chiffres trimestriels avec une perte annoncée, qui a un petit peu déçu le marché. Mais en revanche, ils ont annoncé un bénéfice annuel de quasiment 30 milliards. Merci au Crédit Suisse. L'un dans l'autre, la journée tient relativement bien. Et d'ailleurs, on le voit ce matin sur les commentaires sur les marchés asiatiques. Les gens sont plutôt encourageants puisqu'ils se disent l'un dans l'autre, regarde, on annonce que les taux sont repoussés, la baisse des taux est repoussée de plus en plus loin. Le marché s'en fout. Les résultats sont bien. 81,2% des sociétés ont fait mieux que les attentes pour l'instant, vu qu'on avance de plus en plus dans la saison des résultats. Donc l'un dans l'autre, il n'y a rien à dire. On sait que les résultats avaient été révisés à la baisse avant, mais ça, on ne met pas trop dans le Wall Street Journal. L'un dans l'autre, les choses vont plutôt bien, donc on est satisfait et le marché ne baisse toujours pas. Même si, aujourd'hui, news assez intéressante, on a eu droit à monsieur Tom Lee. Alors Tom Lee, c'est le stratégiste de ses Fundstrat. Le gars, c'est un boule de chez boule. Il est convaincu que le marché va à 100 000 milliards de toute façon. Il est hyper boule depuis des mois et des années. Mais depuis quelques temps, il est méfiant et il déclarait hier soir justement qu'il pensait qu'on arrivait à un moment où le marché était au bord d'une correction imminente. Alors son scénario à lui, c'est correction imminente, très violente et très rapide, opportunité d'achat, utiliser les comptes étrangers, vendre les bijoux de la grand-mère, racheter le marché et revendre à 5400 à Noël. C'est un peu le scénario qui est prévu, mais lui s'attend à une correction très rapide bientôt puisqu'il a l'impression qu'aujourd'hui, à l'approche des 5000 sur le S&P 500, quand ça veut pas, ça veut pas, et l'indice semble un peu patiner dans la semoule à ces niveaux-là. Bref, c'est compliqué, et donc il est méfiant de ce côté-là. Il est d'ailleurs accompagné par monsieur Paul Tudor Jones, qui dit la même chose. Il estime qu'aujourd'hui, il y a bien des titres dans le marché qui sont carrément sous stéroïdes anabolisants, et qu'il est inquiet de ce qui pourrait se passer Ensuite, donc ça fait deux voix négatives, mais au milieu de tout ça, vous avez quand même une voix optimiste, le trading desk de JP Morgan, qui a quand même une vision assez... JP Morgan a quand même une vision assez moche de l'économie. Mais le trading desk de JP Morgan a lui annoncé qu'il tournait plutôt à la hausse, puisqu'il voit que finalement, vous avez un choix, mais que vous avez un marché qui ne baisse jamais, bah forcément, vous avez un marché qui monte, sauf que pour l'instant, le marché a l'air de pas faire grand-chose, en tous les cas aux États-Unis. Autrement, le pétrole est à 73,42, il remonte légèrement, rien à voir avec ce qui se passe au Moyen-Orient, mais on a eu un message de l'EIA, hein, l'agence pour l'énergie, qui a parlé hier soir en disant que selon eux, eh bien, la production américaine du pétrole avait atteint un pic et qu'elle était en train de se dégonfler très rapidement, qui dit moins de production, et dit risque de hausse des prix, forcément, et donc du coup, il y avait un petit stress de ce côté-là. On retiendra aussi les élucubrations de Monsieur Joe Biden, qui hier a raconté l'anecdote quand il a rencontré le président allemand François Mitterrand et il y a 3 ans, hein, le président allemand François Mitterrand il y a 3 ans, donc on voit que le mec il est complètement à la ramasse et il a complètement perdu toute notion de la réalité. Il pourrait rencontrer Monsieur Mitterrand bientôt, mais ça dépend que de Biden et pas de Mitterrand. Mais en tous les cas, c'est un tout petit peu inquiétant parce que quand on voit certaines images et certains discours du président américain, on peut se demander comment est-ce qu'il va faire pour aller, ne serait-ce qu'à la fin de son mandat, mais en plus se retrouver dans une élection face à Donald Trump. Donc les Américains se retrouvent vraiment avec une situation assez délicate, même si on a l'air d'en faire très peu cas dans les médias. Au niveau des bonnes nouvelles, on notera aussi que les chiffres de l'endettement des Américains sont sortis. Alors, l'endettement des cartes de crédit a augmenté encore de 50 milliards. On est à 1130 milliards de dollars sur l'endettement des cartes de crédit. Et surtout, il y a de plus en plus de gens qui ne remboursent plus leurs cartes de crédit. Les taux sont toujours extrêmement élevés, mais ça, visiblement, tout le monde s'en fout. L'endettement général américain a littéralement explosé. Vous voyez les chiffres qui s'affichent sur vos écrans, c'est complètement stratosphérique. Mais tout le monde s'en moque. Mais la problématique de tout ça, c'est qu'on est en train gentiment de lutter contre l'inflation en créant de plus en plus d'endettement, et je parle même pas d'endettement du gouvernement américain, qui fait quand même qu'au bout d'un moment, il y a un truc qui va bugger quelque part, ou alors j'y comprends rien, à moins qu'on ait une croissance économique complètement délirante et qui double les salaires dans les 12 mois, tout en réussissant à maintenir l'inflation en dessous de 2%, je vois pas comment ils vont s'en sortir pour réussir à éponger cette montagne de dettes qui est en train de s'accumuler. Je crois que sur les 3 dernières années, l'endettement des ménages moyens aux États-Unis est en hausse de 23%, donc il y a quand même un problème quelque part qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur, et je ne suis pas sûr que les banques centrales qui sont nos amis puissent à terme réussir à nous sauver les miches à tous les coups. Aujourd'hui, nous aurons la production industrielle en Allemagne qui sera publiée, le trade balance qui sera publié aux États-Unis. Ce matin, on aura les résultats Total en Europe, on aura également Uber qui publiera, ce soir on aura PayPal qui sera là après la clôture, et puis Disney qu'on attend beaucoup parce que ça ne va pas très très bien en ce moment, et il continue de se faire allumer massivement sur Twitter, surtout par monsieur Elon Musk qui lui-même se fait aligner par les brokers comme Daiwa qui sont extrêmement méfiants par rapport à l'avenir de Tesla. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui, un marché qui est alors un peu en mode neurasthénique, hein, on ne sait plus trop comment on va pouvoir trouver l'énergie pour aller plus haut, comme je le disais en début de vidéo, donc ce sera à la question, la réponse plutôt, qu'on va devoir trouver ces prochains temps. On a vu que les résultats étaient bons, avec des attentes qui étaient rabaissées, on voit que les chiffres économiques montrent quand même des risques de redémarrage de l'inflation, on a vu encore le prix du cacao qui a atteint un plus haut de tous les temps. D'un autre côté, on nous dit que tout va bien, mais qu'il n'y a pas urgence de baisser les taux alors qu'on monte depuis début novembre parce qu'on dit qu'on va baisser les taux. Donc voilà, on en est là et on sent que le marché, eh ben, il est un petit peu à bout de souffle en haut de la montée et que pour l'instant, ben, il cherche son deuxième souffle ou alors un produit illégal qui n'est pas autorisé par le comité olympique. Voilà, en ce qui me concerne, je vous encourage comme d'habitude à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo, à la partager et à allumer la cloche pour signaler quand il y a une nouvelle vidéo qui arrive. Puis moi, je vous retrouve, bah, comme d'habitude, demain pour voir quelle est la nouvelle gaffe de Monsieur Biden. On ne s'en lance pas. Passez une très très bonne journée et à demain. Bye bye.